Florent Torchu, correspondant de France Football et de L'Équipe maintenant à Barcelone, mais pendant pas mal d'années aussi à Buenos Aires, de 2009 à 2016, qui ont été les grandes années de Léo Messi, avec à cette époque-là 5 ballons d'or. Donc c'est pour ça que j'ai une grande connexion avec l'Argentine et avec Léo Messi.
Et comment est né et a mûri cet amour pour l'Argentine?
Ben, moi, quand j'étais petit, mon papa essayait de m'amener au foot et j'aimais pas trop ça jusqu'à ce qu'un jour je vois le Mondial 94 avec Caniggia, Maradona et surtout Batistuta, qui m'impressionnait beaucoup avec cette grande crinière, c'est comme on dit ici, la facha, cette classe qu'il avait en lui et ses buts, avec, après il faisait le signe de la mitraillette, c'était vraiment la puissance, les coups de canon de Batistuta, c'était quelque chose qui, quand on est enfant, marque beaucoup. Et moi, ça m'impressionnait beaucoup. Et du coup, j'ai commencé à être fasciné, presque même obsédé par l'Argentine. Je regardais tout ce qui avait un rapport avec l'Argentine, des documentaires. Mes parents m'offraient souvent des cadeaux, alors des maillots, des choses autour du foot, mais aussi des fois des livres, des posters, des disques. Donc, c'était vraiment devenu l'obsession avec un jour l'idée de pouvoir voyager là-bas.
La première fois que tu es venu en Argentine, c'était via le Mexique.
D'abord, en fait, j'ai réuni de l'argent quand j'étais étudiant avec mes premiers salaires pour faire un premier voyage, pour venir voir à quoi ça ressemblait vraiment. Ça m'a vraiment enchanté, ça m'a plu encore plus que ce que je pensais. Et après, quand je suis rentré en France, mon obsession, c'était de revenir vraiment m'installer. Et donc, j'ai travaillé pendant 1 an et demi, 2 ans comme correspondant du pays malouin à Saint-Malo, qui a donné son nom aux îles Malouines. Donc c'était déjà un signe, j'ai toujours eu des connexions comme ça avec l'Argentine. J'ai travaillé pendant 2 ans, je suis retourné chez mes parents, donc j'ai mis pas mal d'argent de côté, et j'ai fait un grand voyage effectivement du Mexique jusqu'à l'Argentine, jusqu'à Buenos Aires, pour pouvoir découvrir vraiment l'Amérique du Sud, de refaire un peu le voyage du Che à l'envers. Et l'idée c'était une fois d'arriver à Buenos Aires, de m'installer, de commencer à essayer de faire des piges, de faire des articles pour l'équipe et France Football.
Dans quelles circonstances as-tu pris le premier contact avec un joueur argentin?
Les premiers joueurs argentins que j'ai rencontrés, en fait, c'était surtout à travers leur famille, l'entourage. C'est qu'en fait, quand en 2009 j'arrive, il y a souvent eu des modes avec des Argentins, et parfois il y en avait moins, parfois il y en avait plus. Et j'ai eu la chance, quand je suis arrivé en 2009 ici, pour m'installer en Argentine, il y a Gabriel Heinze qui est arrivé à Marseille, bon, qui avait déjà joué au Paris Saint-Germain, qui est venu aussi le même été que, enfin, l'été français en juin 2009 avec Lucho González. Et à Lyon, il y avait Lisandro Lopez qui arrivait aussi avec Lucho, ils étaient tous les deux à Porto, mais ce n'étaient pas des joueurs très connus en France. Donc très vite, l'équipe et France Football m'ont demandé d'aller à la rencontre de leur famille, du premier entraîneur, de leurs amis, etc., dans les différents villages ou petites villes d'où ils venaient.
Et comment arrives-tu à Léo Messi?
Bah, Léo Messi, en fait, ce qui est incroyable, c'est que, bon, il était déjà connu, il jouait déjà depuis 4-5 ans avec l'équipe première du Barça, mais 2009, c'est vraiment l'année de sa consécration internationale, puisque c'est l'année où le Barça fait le sextette, gagne les 6 titres possibles. Et c'est vraiment son explosion, sa consécration au niveau international, avec notamment en décembre 2009 le premier Ballon d'Or. Et en réalité, c'est mes premiers articles. Moi, je suis arrivé en mars 2009. En juin, j'ai fait les articles sur les Argentins qui venaient d'arriver à Lyon et à Marseille. Et ensuite, en décembre, France Football m'a commandé mes premiers articles, m'a demandé d'aller à Rosario pour raconter les origines, le berceau de Léo Messi. Et c'est comme ça que je suis petit à petit rentré dans l'univers Messi à Rosario, que j'ai rencontré des amis d'enfance de Newell's qu'on appelait à l'époque l'équipe de la Maquinita del 87, et puis des amis du quartier, des gens de sa famille, notamment Jorge, son papa. Et voilà, et avec tout ça, je faisais des articles. Après, il fallait que je trouve des idées parce que je suis revenu pendant 4 ans d'affilée à Rosario, de 2009 à 2012, une fois de plus en 2015. C'est vrai que, comme on disait un peu, Léo, il avait une mainmise sur le Ballon d'Or à ce moment-là, incroyable.
Qu'as-tu découvert sur les origines de Messi en allant sur les traces de son enfance à Rosario?
Bah, il y a deux choses vraiment qui m'ont marqué, c'est ce côté très compétitif, parce qu'évidemment, voilà, on voit tous, il a un talent extraordinaire. C'était à l'époque, on disait évidemment que c'était l'héritier de Diego Maradona, que les Argentins ne pensaient pas avoir un autre joueur aussi fort. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment les gens qui me racontaient, notamment son papa, que même quand il jouait aux cartes avec ses frères et sœurs, ou dans la rue au ballon avec les copains du quartier, qu'il voulait jamais perdre, qu'il piquait des crises de nerfs, qu'il voulait pas rentrer. En fait, quand il faisait des matchs de foot, s'il perdait ou il faisait match nul, il voulait pas rentrer à la maison tant que le score lui était pas favorable. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'il avait déjà ancré en lui très très fort. Et puis la deuxième chose qui, pour moi, a fait basculer sa vie, c'est vraiment ce problème d'hormones, cette maladie hormonale. J'ai la chance aujourd'hui devenu très ami avec Diego Schwarzstein, qui est le médecin qui a diagnostiqué cette maladie et qui aujourd'hui est à Barcelone, qui fait partie des Argentins qui ont quitté l'Argentine pour s'installer en Europe. Et Diego, voilà, me raconte effectivement le jour où il annonce à Messi qu'il a ce problème hormonal et qu'il va devoir prendre un traitement. Et voilà, arrive le début de la crise de 2001, de 2001. Et à ce moment-là, la famille décide de partir en Europe. Et je pense qu'effectivement, si Messi n'avait pas eu ce problème hormonal, il serait peut-être resté en Argentine. Et il aurait peut-être joué à Newell's, à River, parce qu'il avait fait aussi un essai là-bas. Et il aurait peut-être pas eu cette carrière-là. Donc en fait, c'est quelque chose vraiment, c'est un basculement dans son histoire.
Rappelons qu'il n'a jamais joué en première division en Argentine. Il avait quel âge en quittant le pays?
Il avait 13 ans puisqu'il est parti au début septembre 2000 avec son père. Ils sont partis tous les deux. Après, ils ont été rejoints par la famille. Finalement, la famille a décidé de se séparer pendant un moment. Donc la mère et les frères sont revenus. Lui est resté avec Jorge à Barcelone. Voilà, à 13 ans, il arrive au Barça. Son père était obligé de le suivre puisque il était mineur. Et c'est ça qui, pour moi, était le changement, le basculement dans sa vie, vraiment.
Quelque part, il y a un génie à Barcelone qui a découvert un autre génie.
Bah, j'ai presque envie de dire que c'était facile parce que quand on voit les images, même à Newell's, bon, aujourd'hui, avec le recul, forcément, avec comme dit ici, le journal du lundi, c'est plus facile. Mais vraiment, quand on voit les images auxquelles j'avais eu accès, parce que j'avais aussi fait des documentaires à l'époque, on m'avait donné des archives de Newell's, de certaines chaînes de télévision à Rosario qui avaient fait des reportages sur lui, et la facilité avec laquelle il élimine ses adversaires. Il y a notamment aussi une vidéo qui est connue, qu'on trouve sur YouTube, d'un tournoi qu'il a joué au Pérou, à Lima, qui est son premier tournoi international finalement, où il passe en revue tous ses jeunes coéquipiers. Il doit avoir 10-11 ans. Et il gagne le tournoi, évidemment il finit meilleur buteur, meilleur joueur, etc. Et il y a une anecdote de Bielsa qui avait reçu une vidéo de lui au moment où la sélection regardait un petit peu voilà, qui sont les futurs talents qu'on a, etc. Il y a une cassette qui est arrivée à Bielsa. Et il avait demandé à son adjoint, mais attends, remets en vitesse normale, là, c'est en accéléré. Et l'adjoint lui dit, mais non, 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 c'est la vitesse réelle. Donc ça montre vraiment qu'il était au-dessus déjà du reste.
Parlons un peu de son étape à Barcelone.
Bah, à Barcelone, en fait, c'est pour ça que son histoire, moi je dis toujours que c'est une histoire rêvée, un peu un roman ou un film, parce que quand il arrive à Barcelone, il a déjà effectivement ce talent brut, c'est un diamant, voilà, qui reste à polir. Mais en plus, il se retrouve à la Masia, qui est le centre de formation du Barça, où vraiment on apprend le football, voilà, que Cruyff avait développé, enfin Rinus Michels, qui était le maître de Cruyff, après Cruyff et après Guardiola. Donc il se retrouve vraiment dans des conditions où on joue un beau football, donc qui correspond à son jeu. Parfois, il y a des entraîneurs qui lui demandent de lâcher le ballon un peu plus vite, mais lui, il n'en fait qu'à sa tête. Et il se retrouve un peu, comme dirait Menotti, dans un orchestre très bien réglé, puisque autour de lui, il y a Xavi, il y a Iniesta, il y a Busquets, il y a aussi son ami Piqué derrière en défense, il y a Puyol, il y a une génération vraiment incroyable. Et lui, c'est le maître d'œuvre, vraiment le virtuose de cette équipe. Et à cette époque-là, voilà, tout le monde se souvient, le grand Barça des années Guardiola, entre 2008 et 2012, qui gagne tout et qui surtout joue d'une manière qui est sans doute encore aujourd'hui l'une des plus grandes équipes qui existait, à la fois en termes de résultats, mais aussi en termes de jeu. C'était assez incroyable. Et Messi était la cerise sur le gâteau, comme on dit ici, la frutilla del postre. Et voilà, et donc il a triomphé pendant des années. Ensuite, c'est pas mal de ses coéquipiers qui étaient un peu plus vieux ont pris leur retraite. Lui est resté comme le joueur qui souvent sauvait l'équipe jusqu'à cet été 2021 où pour lui ça a été une déchirure, il a été obligé de partir pour des raisons financières. Mais voilà, il a pendant 17 ans, je crois, porté le maillot du Barça et avec quand même beaucoup, beaucoup d'années de victoire, de gloire, plus que de déception. Et puis après, voilà, il y a l'histoire avec le Paris Saint-Germain.
Il faut savoir qu'une caractéristique de Messi, c'est que même après tant d'années loin du pays, il parle toujours argentin. Et plus qu'argentin, rosarino, le langage de sa ville natale.
Oui, exactement. C'est vrai que Léo, ce qui est incroyable, c'est que normalement, n'importe qui part vivre très jeune dans un autre pays, un peu comme une éponge, va absorber des manières de parler, des coutumes, etc. Et lui, en fait, comme tu disais, c'est pas qu'il est argentin, c'est qu'il est rosarino. Il a vraiment des manières de s'exprimer, des coutumes, des choses en lui qui sont très rosarina. Le maté, l'asado. Ce côté clan vraiment avec la famille, que ce soit avec ses parents, ses frères et ses sœurs, mais aujourd'hui le clan qu'il a reformé aussi avec Antonella et ses trois enfants. Et aussi les amis, quand il était à Paris notamment, il a choisi sa maison en fonction de Paredes et de Di Maria pour être près d'eux, pour pouvoir jouer au truco le dimanche, les jours où il n'y avait pas de match. Passer du temps avec eux. C'est quelqu'un qui a des valeurs très fortes d'amitié, de camaraderie, qui est très attaché à son pays, qui garde des très bons souvenirs de son enfance, modeste mais heureuse, et qui, dès qu'il peut, revient à Rosario. Bon, quand il était en Europe, il venait toujours au moins deux ou trois fois pendant les vacances d'été, à la trêve ou à Noël. Et quand il a fait son mariage il y a quelques années à Rosario, il y avait quasiment que des Argentins en fait. C'est son pays et c'est pour ça qu'il a toujours voulu porter le maillot de l'albicéleste.
Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto.
En réalité, ça avait bien commencé avec un accueil fantastique au Parc des Princes, avec d'autres joueurs qui arrivaient en même temps que lui, notamment Donnarumma. Et le PSG qui promettait sans doute d'avoir la meilleure équipe qu'il avait jamais eue, avec son ami Neymar aussi, Paredes, Di Maria, on se disait voilà, il était dans des conditions parfaites pour réaliser de grandes performances. Comme il arrive en cours d'été, après la Copa América, gagné avec la Scaloneta, et donc un peu émoussé aussi par cette compétition, par le fait de commencer la temporada, de faire la pré-saison un peu coupée. Donc en fait, il commence sa saison, il est un peu hors de forme. Après, bon, je crois qu'il va avoir le Covid. La première saison est un peu compliquée. Effectivement, je crois qu'il a le Covid quand il revient ici à Noël. Il revient un peu tard de ses vacances de Noël. Et puis, bon, il a du mal un petit peu à se lancer. Et la première saison est quand même globalement satisfaisante, même si au niveau des statistiques c'est pas celle auquel il nous a habitués. Et la deuxième saison, il peut finalement faire une très bonne pré-saison. Il arrive très bien préparé avec ses habitudes enfin à Paris, que ce soit dans la ville ou dans son quotidien ou avec le club. Et puis il commence très très bien, très très fort. Arrive la Coupe du Monde, voilà, qui avec la consécration. Mais quand il revient, voilà, faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a à l'époque à 34 ou 35 ans. Bah, la deuxième partie de saison est de nouveau un peu difficile et il est pris en grippe par les supporters qui, pour la deuxième année de suite, après l'élimination en huitième de finale de Ligue des Champions, le siffle lui et Neymar de manière un peu injuste, voilà, considérant que c'est un peu les symboles de cette politique bling-bling du club des Qataris, et les prennent pour cible avec Neymar comme responsable de l'élimination, alors qu'il y avait d'autres joueurs qui avaient était encore moins performant. Et voilà, et là il y a un peu une cassure parce que je pense que voilà, on l'a vu à la Coupe du Monde, mais s'il a besoin d'être, je sais pas comment le traduire en français, mais mima, de se sentir bien entouré, bien protégé. Et à ce moment-là, en fait, lui, je pense que les sifflets l'affectent. Au club, il se sent peut-être pas aimé comme il aimerait. Et pour lui, tout ça, c'est dur. Il n'arrive pas du coup à vraiment se sentir parisien à 100%.
Tu as écrit un livre, Le Roi Léo. Comment t'es venue l'idée et quel a été le premier contact avec le joueur?
Bah, pour moi, en fait, le roi Léo, El Rey Léo, c'est né vraiment au moment où il part de Barcelone au Paris Saint-Germain, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se recoupaient avec mon histoire aussi, d'être venu ici en Argentine en 2009, au moment où il a explosé, où il a gagné ses premiers ballons d'or, ensuite d'être allé vivre à Barcelone pour continuer à le suivre pour l'équipe et France Football en 2016. Et après le fait qu'il signe au Paris Saint-Germain, évidemment, moi étant français, vivant à Barcelone, qui était aussi sa ville, et ayant vécu en Argentine, j'ai eu pas mal de journalistes, de médias qui m'ont contacté pour faire des articles. Et j'avais accumulé beaucoup de matériel en fait depuis 2009, avec tous mes voyages à Rosario, le fait de vivre à Barcelone, j'ai rencontré aussi beaucoup de gens qui l'ont formé à la Masia ou des coéquipiers. Et avec tout ce matériel en fait que j'ai accumulé pendant des années, je me dis il faut en faire quelque chose. Et en plus, à partir de 2019, j'ai eu la chance de le rencontrer, d'avoir un premier contact direct avec lui. En fait, je trouve ça assez aujourd'hui maintenant rigolo parce que c'est vrai que en 2019, donc pour son sixième Ballon d'Or, j'ai eu la chance d'aller chez lui à Barcelone. Ensuite, en 2021, pour le septième Ballon d'Or chez lui à Paris, on a fait de nouveau une interview. Et là, il y a pas si longtemps, à Miami, pour le huitième Ballon d'Or. Donc en fait, j'ai eu la chance d'aller dans les trois maisons de Messi, d'échanger avec lui, de faire des belles interviews. Comme il y avait déjà eu beaucoup d'interviews de lui, qui sont d'ailleurs aussi dans le livre, des interviews de mes collègues à l'époque, les premières interviews quand il était un jeune joueur. En fait, ces interviews que j'ai récupérées aussi, qui sont aussi dans le livre, plus celles que j'ai faites moi, on voit vraiment l'évolution du joueur dans son jeu, mais voilà, dans sa personnalité aussi. Et on a pu faire des interviews avec des angles très différents qui ont été publiés vraiment des petites parties ici. Mais pouvoir lire l'interview en entier, parce qu'à chaque fois, j'ai eu la chance d'être au moins une heure avec lui pour discuter. Ça permet vraiment aux gens de découvrir Messi, de comprendre sa manière de voir le football, de voir la vie. Et voilà, donc entre les divers reportages que j'ai fait à Rosario, ou Paris, ou Barcelone, plus aussi sur la sélection, sur les comparaisons qu'il y a pu avoir avec Maradona. J'ai aussi Pekerman qui m'avait raconté, c'est une interview que j'avais faite pour Canal+, mais on avait gardé une toute petite partie, 5 minutes, mais je l'avais interviewé une heure sur le début de Messi, où il raconte ce début frustré, où il se fait expulser parce qu'il donne un coup de coude. Donc cette interview, je l'ai ressortie du placard, je l'ai mis en entier, en intégralité dans le livre. Voilà, tous ces témoignages récoltés, plus les interviews à la première personne de Messi, ça donne vraiment quelque chose de nouveau. Et sur le gâteau, la préface de Angel Di Maria, qui tout de suite a accepté. Juste après la Coupe du Monde, on a discuté avec son agent, et deux jours après, j'étais au téléphone avec Di Maria, qui me racontait un peu, comme on dit ici, las malas y las buenas, les bons, les mauvais moments avec la sélection qu'ils avaient traversé depuis les JO de Pékin, qu'ils ont remporté, mais qui après, il y a eu une longue traversée du désert, et jusqu'au titre de la Copa América, la Finalissima et la Coupe du Monde. Et voilà, avoir l'honneur d'avoir Di Maria qui fait la préface, c'est incroyable. D'ailleurs, quand j'ai vu Léo à Miami, qu'il a vu ça, il était très surpris parce que je lui ai offert le livre à ce moment-là, et il était très heureux de voir que son ami lui avait dédié quelques mots.
Di Maria, un autre joueur argentin qui a porté les couleurs du PSG.
Oui, Di Maria qui est aujourd'hui le meilleur passeur historique du Paris Saint-Germain. Et c'est incroyable parce que je pense, comme je dis l'autre jour lors de ma présentation du livre ici à l'Alliance Française, que si Messi n'avait pas existé, Di Maria aujourd'hui ce serait un dieu vivant. Il est reconnu en Argentine parce que voilà, il a mis tous ses buts en finale, il fait partie aussi de cette génération qui n'a jamais laissé tomber. Mais c'est vrai que tout ce qu'a obtenu Messi, tout ce que fait Messi, cache un peu tout ce qu'a pu faire Di Maria. Mais c'est un joueur extraordinaire aussi.
On connaît bien Messi en tant que joueur de foot. Comment définis-tu sa personnalité ?
Moi, je le compare souvent en termes de personnalité à Zinedine Zidane, parce qu'en fait, c'est un faux timide. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui s'expriment beaucoup devant les caméras, à la télé ou dans les médias. Quand on les voit comme ça, ce sont des leaders un peu taiseux, mais c'est des joueurs qui déjà rayonnent ou rayonnaient dans le cas de Zidane sur le terrain et qui sont vraiment des exemples pour des grands capitaines, voilà, pour leurs coéquipiers, mais qui aussi dans le vestiaire, dans la vie quotidienne, sont des leaders positifs, comme on dit souvent. Moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti de Messi, c'est que voilà, on dit souvent qu'il est timide, il regarde un peu ses chaussures, mais quand on a fait les interviews avec lui, il était plutôt à l'aise, quand même, malgré tout, même s'il ne se révèle pas trop, parce que voilà, il aime bien conserver un peu son intimité, protéger un peu sa vie de famille. Mais c'est quelqu'un, voilà, de très intéressant. On a souvent dit, oui, les interviews de Messi, elles sont un peu tièdes. Bah, je recommande vivement aux gens de lire notamment les dernières que j'ai eu la chance de faire. Par exemple, celle que j'ai fait quand on s'est vu à Paris pour le 7e Ballon d'Or. On a parlé des 7 traits de personnalité qui font que c'est un génie. On essaie d'analyser un peu le personnage et le faire parler des choses, par exemple, un peu la résilience ou des choses qui est vraiment importante dans son histoire. Voilà, ce côté de jamais baisser les bras, ce côté très compétitif, ou aussi comment il vivait sa notoriété. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir qu'il a, il a une vraie réflexion là-dessus, une vraie opinion, et que, contrairement à ce qu'on pouvait penser, notamment avant qu'on découvre le Messi un petit peu caliente à la Coupe du Monde, mais il avait déjà ça en lui, en fait, sauf qu'il ne le montrait peut-être pas. Et après, quelqu'un de très généreux, quelqu'un de très agréable, les fois où j'ai eu la chance d'aller chez lui, c'est toujours des bons moments, on est toujours très bien reçu par lui et par Antonella, il pose un maté, quelque chose à boire, c'est que des gens très bien éduqués et très sympas. Et en fait, quand on est en face de lui, on réalise pas que c'est la même personne qui fait des choses extraordinaires sur le terrain. Il est tellement normal dans la vie qu'on a du mal à réaliser que c'est lui.
Parlant de sa maison et de sa femme, il y a une petite anecdote lors d'une visite où vous avez laissé vos souliers à l'entrée.
C'est rigolo, c'est la deuxième fois que je l'ai vu quand je suis allé à Paris, chez lui dans sa maison, en réalité à Neuilly, sur Seine. On arrive et en fait, on voyait que le sol était très très bien lavé, avec du marbre. Après, il y avait des tapis dans le salon. Donc, très spontanément, mon chef Pascal Ferré, qui était à l'époque le directeur de France Football, a enlevé ses chaussures et donc on a tous fait pareil. Et on a commencé l'interview, on a fait l'interview avec Léo sur le tapis, etc. Lui avait des chaussures toutes neuves de son sponsor, qui venait juste de sortir de la boîte, donc il était resté en chaussures. Et en fait, juste à la fin de l'interview, il a dit: Amor, on a fini, tu peux descendre, etc. Donc elle est descendue avec les trois petits, leurs trois enfants, et elle nous avait en chaussettes. Elle a dit: Mais pourquoi ils sont en chaussettes? Pourquoi tu leur as dit d'enlever leurs chaussures? Et lui, il a levé les mains un peu comme ils font les joueurs, comme ça, mais c'est pas moi, j'ai rien fait, comme s'il était innocent, j'ai rien fait, je leur ai rien demandé, c'est eux qui les ont enlevés spontanément. Donc on s'est retrouvé un peu comme ça au milieu d'une, entre guillemets, une dispute conjugale entre Léo et Antonella, mais voilà, avec Buenahonda, c'était vraiment très, très, très sympa, c'est juste pour l'anecdote, et Antonella l'a juste un petit peu fâché comme ça, mais c'était, non, c'était juste pour rigoler.
Ton livre a deux éditions, si je ne me trompe pas, une en français, l'autre en espagnol.
Il est sorti d'abord en France, chez Solar Édition. On le trouve à la Fnac ou voilà, sur Amazon et dans quelques librairies. Et ensuite, il est sorti dans pas mal de pays. Il est sorti en Corée du Sud, en République tchèque, en Italie notamment. Je crois qu'il y a 6 ou 7 éditions. Mais moi, évidemment, quand j'étais là l'an dernier pendant la Coupe du Monde en Argentine, il y a quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, c'est que les gens de son entourage puissent le lire aussi et puissent avoir ce souvenir et que lui aussi puisse l'avoir entre les mains, que Léo Messi et sa famille puissent l'avoir entre les mains. Donc j'ai discuté avec Sudestada, Revista Sudestada, qui tout de suite m'a dit: Ah, super, oui, on veut faire ce livre. Et en fait, au fur et à mesure, la compétition avançait. Ils m'ont dit: Ah, par contre, si, je pense que tu vas devoir faire un nouveau chapitre. Et effectivement, avec la Coupe du Monde, la consécration de Léo, j'ai fait ce chapitre en plus. J'ai fait aussi, donc, comme je disais, la préface de Di Maria. Et on l'a sorti en avril 2023. Il est disponible à la librairie. Je crois que aussi on peut le trouver en ligne sur le site de Revista Sudestada. Et voilà, pour moi, c'est un plaisir d'avoir ce livre édité ici, de le partager avec les Argentins. En plus, je crois que c'est un bel objet que, là, je peux en parler vraiment ouvertement parce que c'est pas ma responsabilité, mais je trouve que ce qu'a fait Revista Sudestada, les photos, bah, évidemment, celle de Léo avec la Coupe du Monde dans la main, je la trouve magnifique. Et après, il y a beaucoup, beaucoup de photos, des photos d'enfance que m'avait donné sa famille à l'époque, mais aussi des photos de toute sa carrière, de la Masia, du Barça, du PSG. Maintenant, il faudra peut-être ajouter bientôt un nouveau chapitre, une nouvelle édition à Miami. Mais déjà, voilà, déjà, je pense que c'est un bel objet pour tous les amoureux du foot argentin et de Léo Messi.
Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso, me esquivé todas las trampas de oso. Diariamente el sol fue mi testigo y la luna la que me regaló el camino. Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera. Sin rasguño se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños. Le dije a mi coraje antes que te dé calambre: cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar.
Pour terminer, en tant que Français qui a parcouru l'Argentine, comment décris-tu ce grand pays?
J'avais eu un flechazo, un coup de cœur pour l'Argentine quand j'étais enfant, et après j'ai eu la chance de découvrir. Et Buenos Aires, pour moi, c'est une ville incroyable avec une effusion, une ferveur permanente chez les gens, mais dans la ville en général, je trouve que c'est une ville extraordinaire, vraiment où on s'ennuie jamais, et avec des quartiers très différents. Donc je recommande vivement de venir découvrir. Et après, je trouve que c'est un pays magnifique, qui a absolument presque tout ce qu'on peut trouver dans le monde. Mais il y a les montagnes dans le nord-ouest, les quebradas, qui sont comme les canyons qu'on peut trouver aux États-Unis, mais pour moi, je trouve que c'est encore plus beau. J'ai passé pas mal de temps à Tucumán, à Salta, à Jujuy. Je trouve que c'est un des plus bels endroits du monde. Et après, évidemment, il y a le Perito Moreno, le glacier, il y a Ushuaia, Puerto Madryn, où on peut voir des baleines, des petits pingouins. J'ai connu aussi Mendoza, évidemment, les vignes. Ça, c'est un très bel endroit avec les Andes en toile de fond. Cordoba et Rosario, les gens vraiment sont extraordinaires. Et puis, Iguassu, les chutes d'Iguassu, la jungle. Vraiment, en fait, l'Argentine, on peut venir 10 fois et découvrir à chaque fois de nouvelles choses. Donc pour moi, c'est vraiment un émerveillement à chaque fois que je viens. À la fois la nature, mais aussi la manière de vivre des Argentins, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est un plaisir vraiment pour moi de partager cette passion, cet amour pour l'Argentine et la France, et évidemment le pays où j'ai grandi, où j'ai été élevé. Mais l'Argentine est, voilà, mon pays d'adoption, on va dire.
Con el fútbol, que lucha y pelea por el fútbol, somos campeones del mundo.